OK, on va continuer notre série sur la Providence. Ce soir, on va voir la Providence et nos affaires familiales. On va voir comment le Seigneur agit, la Providence et notre mariage, la Providence et nos enfants, et aussi le troisième point, ça va être la Providence et nos besoins. Alors, pour ceux qui suivent avec la feuille, on va tomber tout de suite sur la page 2. Alors, on va examiner aujourd'hui comment l'Éternel a agi. Jusqu'ici dans nos vies, comment il continue d'agir et comment il continuera d'agir dans le déroulement de nos affaires familiales, notre mariage, nos enfants, nos besoins. Ce n'est pas des choses qu'on réfléchit souvent là-dessus, mais des fois, c'est nécessaire de le faire. Alors, on va regarder le premier point, la Providence et notre mariage. Alors, les Saintes Écritures nous enseignent que la main de Dieu est active dans le mariage des élus. Autrement dit, ce n'est pas un hasard si on est marié avec une telle personne, autant l'homme que la femme. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui dirige ces choses-là et il le fait pour des raisons sages et c'est important de se rendre compte de ça. Alors, la première chose à réaliser concernant la Providence et notre mariage, c'est que le mariage, c'est une grâce et un don de l'Éternel. Proverbe 19. Verset 14 nous dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Alors, bien entendu, ça dit une femme intelligente est un don de l'Éternel, mais je pense que l'inverse peut s'appliquer également. Un homme intelligent est aussi un don de l'Éternel. Alors, c'est de savoir d'abord que c'est un don de Dieu. Que d'avoir reçu quelqu'un en mariage. Alors, bien entendu, le célibat est aussi un don de Dieu à sa façon, mais là, ce soir, on va regarder surtout la question du mariage. Alors, dans Proverbe 18, au verset 22, ça dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » C'est aussi même si on ne s'en rend pas compte, des fois, on fait des farces avec Lucie. J'ai dit, tu te rends-tu compte que je suis exactement l'homme qu'il te fallait? Puis là, elle dit, toi, tu te rends-tu compte que je suis exactement la femme qu'il te fallait? Puis, des fois, quand on regarde ça, ça dépend de l'état de notre mariage, mais des fois, on peut se dire, franchement, là, pas sûr que c'est elle que j'avais besoin. Ou bien non, franchement, je ne suis pas sûr que c'est lui que j'avais besoin. Cependant, Dieu nous dit qu'il met sa main là-dedans. Il y a des raisons. Nous, on ne les comprend pas nécessairement tout de suite. On les comprendra peut-être plus tard. Mais on va prendre l'exemple d'un choix divin dans les Écritures. Alors, on va prendre l'exemple d'Abraham, dirigé par le Seigneur dans le choix de l'épouse de son fils Isaac. Dans Genèse chapitre 24, le verset 7, verset 12 et les versets 26 et 27. Verset 7, « L'Éternel, Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Verset 12, et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Versets 26 et 27. « Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel, m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Alors, on voit, et là, on n'a pas tout étudié le passage, mais en gros, Dieu avait permis que le serviteur d'Abraham aille à la bonne place, se trouve dans la bonne famille, arrive au bon moment, il fasse une prière et que Dieu répond exactement, il dit, permet que la femme qui va descendre avec la cruche, qu'elle me donne à boire. À quelque part, la main de Dieu, on voit la providence, la femme qui était due pour Isaac, c'est Dieu lui-même qui l'amène, le serviteur, à la rencontrer. Alors, faut pas. C'est sûr, on dit, OK, ça c'est l'exemple d'Abraham, mais c'est exactement la même chose dans nos propres vies aussi. Dieu va bien au-delà de nos pensées et de nos plans. dans ce domaine. Il permet que nos désirs, qui sont souvent très, souvent insensés, soient contrecarrés pour notre plus grand bien. Alors, c'est important de se rendre compte, quand on connaît des jeunes qui veulent se marier, de leur rappeler la nécessité de beaucoup prier l'Éternel, de diriger leur choix. Sinon, ils font des bêtises monumentales, puis souvent, ça ne fait pas un an qu'ils sont mariés, puis ils ont déjà sauté, comme on dit. Alors, le choix que Dieu fait dans nos vies pour amener un conjoint un avec l'autre s'apprécie de plusieurs manières. Premièrement, le Seigneur va harmoniser les tempéraments et les dispositions. Tu sais, il fait en sorte que, bon, si tu as un tempérament un petit peu bouillant, ben il va te donner une femme douce. Et souvent l'inverse. Et c'est des choses que Dieu sait, il connaît parfaitement, il connaît ton conjoint parfaitement, et il sait que vous êtes complémentaires, vous avez besoin l'un de l'autre. Alors dans Genèse 2, 24, le Seigneur disait, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors deux étrangers vivant dans l'intimité et la proximité répondent réciproquement à leurs besoins, qui sont de plusieurs ordres, l'amour, l'affection, les communications, etc. Alors, cette intimité proche et chaleureuse finit par produire et surpasser les relations basées sur le sang, père, mère, frère et sœur. N'est-ce pas qu'en général, je parle d'un mariage qui va bien, là. En général, notre épouse ou notre époux devient plus cher à nos yeux que notre propre famille avec le temps. On se connaît plus. Souvent, là, si tu demandes à quelqu'un qui sont mariés, que ça va bien dans leur mariage, c'est quoi ton meilleur ami? Ils vont souvent dire, c'est mon conjoint. Parce que souvent, tu te confies tout entre les deux, tu parles beaucoup. Je parle pas de... C'est sûr qu'il y a des exceptions, là, mais je parle en général. Alors, le choix de Dieu s'apprécie par le fait qu'il harmonise les tempéraments et les dispositions qu'on a. On a différentes dispositions. deuxième chose, c'est qu'il fait l'instrument du bien éternel du conjoint. Il prend un conjoint puis il en fait l'instrument du bien éternel de l'autre. Alors, on le voit, par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, au verset 16, qui dit... Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Autrement dit, tu es en train de dire que tu pourrais arriver que tu sois marié avec une personne qui n'est pas nécessairement convertie, mais par ta façon d'agir, par ta façon de te comporter, ça va finir par avoir une influence telle que ça peut même amener l'autre personne au salut. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 et les versets 7. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Marie, verset 7, « Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Alors, le contexte des deux passages nous indique qu'il s'agissait de couples mariés dont l'un des conjoints n'était pas sauvé. Alors, le conjoint régénéré est une lettre ouverte, une sorte de Bible ambulante, on pourrait dire, un exemple si puissant en conduite qu'il peut contribuer à amener le conjoint inconverti au salut. Bien entendu, lorsqu'un couple est composé de deux conjoints régénérés, ils s'influencent l'un l'autre de très forte manière. Plus les conjoints seront engagés dans le processus de la mortification du péché, de la sanctification et de la consécration, plus ils profiteront de l'état de l'autre. Par exemple, si le mari est plus zélé ou plus proche du Seigneur que sa femme, souvent ça va influencer sa femme à suivre. Et l'inverse aussi, des fois, c'est le mari qui est moins chaud, la femme est plus zélée, et ça va... Alors, on s'influence mutuellement, et le Seigneur sait ça, et il utilise ça abondamment. Donc, une autre façon que le Seigneur utilise pour les mariages, il veut nous donner aussi une démonstration des conséquences des mariages mal assortis. Ça, moi, personnellement, je l'ai vu dans ma vie, des personnes qui se sont mariées un petit peu par erreur, un petit peu pour avoir plus examiné le côté physique de la personne, sont attirés physiquement, et à quelque part, ils ne tiennent pas compte de l'état spirituel de la personne avec laquelle ils se marient. J'ai vu ça en Ontario, à un moment donné, j'étais à l'école biblique, et il y a une femme missionnaire qui était là, qui était mariée avec un homme qu'elle avait rencontré lorsqu'elle avait été missionnaire dans les îles où il fait beau, où il fait chaud. Et elle avait marié un homme, là, mais vraiment, là, après qu'elle a été mariée, ça a été malheureuse, mais malheureuse, tout le reste de sa vie, au complet, à cause de l'erreur qu'elle a faite. Alors, quelque part, les Écritures, Dieu veut nous montrer par cela de faire très attention au mariage mal assorti. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 14, ça dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? J'ai vu aussi l'inverse. Une personne qui marie une autre personne en faisant une erreur, parce que la personne n'était pas convertie au moment qu'il a décidé de la marier, il était juste attiré par le côté physique, et Dieu a permis, dans sa grâce, que le conjoint se convertisse après le mariage. Alors, des fois, Dieu permet ça. Mais des fois, Dieu permet aussi que des conséquences soient vraiment graves pour très longtemps, pour le reste de tes jours, dans le fond. Alors, le Seigneur nous donne des avertissements à travers ces choses-là, sévères, contre notre tentation d'établir des relations de mariage qui ne sont pas basées sur une foi chrétienne solide et authentique. La désobéissance dans ce domaine amène parfois des résultats catastrophiques et des douleurs profondes et très durables. La vie peut devenir misérable pour le croyant régénéré qui voudra avancer dans sa vie spirituelle s'il est marié avec un conjoint incroyant qui deviendra rapidement un boulet dur, lourd à traîner, une source continuelle de frustration, d'empêchement, de chicane et d'obstruction dans tous les domaines. L'éducation des enfants, quand quelqu'un, un converti se marie avec une inconvertie, ça ne peut pas marcher. L'administration des finances familiales, souvent, sont vraiment pas toutes les deux sur la même longueur d'onde. Dans la sexualité, dans les loisirs, dans le choix des amis, etc. Alors, quelque part, quand les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, souvent, c'est très, très, très douloureux pour les deux. Alors, les Écritures nous donnent des exemples de mariages mal assortis. Par exemple, on a dans 1 Samuel 25, les versets 25 et 26, Abigail et Nabal. Alors, elle était mariée, puis elle-même a dit son nom veut dire qu'il est fou. Alors, ça dit, verset 25, « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis et que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. » Alors, c'était une femme qui était mariée avec un homme, mais elle-même a trouvé que son mari, c'est un fou. À quelque part, mais le Seigneur a permis qu'elle se remarie un petit peu avec David un peu plus tard, mais au moment qu'elle parle à David, elle était mariée avec un homme, un couple mal assorti, qu'on pourrait dire. 2 Samuel, au chapitre 6, verset 20-23, on a l'exemple de David et Michal. On se souvient que Michal, c'était la fille de Saül. Alors ça dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel bonheur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute à sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai un honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors, on voit encore là, elle a été jalouse, puis à quelque part, elle ne comprenait pas le côté spirituel de ce que David faisait. Job, chapitre 2, versets 9 et 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, Dieu veut qu'on médite sur ces réalités-là. Ils nous ont été donnés pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Le verset 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, est très important pour réaliser. Moi, j'ai vu des gens dans des églises, j'ai vu ça de mes propres yeux au cours des années. Des personnes qui ont beaucoup de difficultés à lire l'Ancien Testament. Pour toutes sortes de raisons. J'ai connu un jeune homme, un qui n'était pas capable de lire le Cantique des Cantiques. Pour lui, c'était comme... J'ai connu un autre qui catalysait les livres des psaumes, qui avait des passages un peu difficiles pour elle. « Oh, moi, parle-moi pas de ça. C'est pas le même Dieu dans l'Ancien, dans le Nouveau. » Il y a des choses fondamentales que ces gens-là n'ont pas compris. Pourtant, le Nouveau Testament est clair dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ça dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Autrement dit, l'Ancien Testament, il y a une raison d'être. Il nous a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors, quelque part, toutes les histoires, ce n'est pas juste des histoires qu'on lit, là. C'est des exemples que le Seigneur nous donne, que si une personne se comporte de telle façon, il va avoir un tel résultat, etc. Alors, c'est important de réaliser cela. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la providence et nos enfants. Donc, le premier principe à méditer concernant cet aspect-là, c'est Jérémie, chapitre 10, et verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est le côté de la souveraineté de Dieu dans nos vies, qui s'exprime de multiples façons et de multiples manières, et très souvent, tout le long de nos vies. Il faut prendre conscience de ces choses-là. Et si on en prend vraiment conscience, ça nous donne une capacité d'agir avec sérénité. Parce que si on est vraiment conscient que Dieu conduit nos vies, comme ça dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, c'est que c'est Dieu qui contrôle les événements qui se produisent dans nos vies. Ça devrait nous emmener à la paix de l'âme, ça devrait nous emmener à la sérénité, mais on le sait, on est fragile, on est toujours en train de questionner les voies de Dieu, surtout que ça va un petit peu mal dans nos vies, puis ça ne va pas à notre goût. On est porté à faire ça. Alors, la providence et nos enfants, la deuxième chose qu'on veut regarder, c'est, on a vu que le mariage tantôt, trouver une femme qui une femme sage, comme ça, une femme intelligente, une grâce de Dieu, mais aussi avoir des enfants, c'est aussi une grâce de Dieu. Dans Genèse 32, au verset 10, il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. » Alors c'est une grâce de Dieu que... d'avoir des enfants. Il forma deux camps parce qu'il était rendu qu'une grosse famille. C'était au moment où il retournait, après Laban, là, il retournait, puis sa famille était rendue assez nombreuse pour qu'elle soit divisée en deux camps. Puis il dit, « Je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as données. » En voulant dire, « Je ne méritais pas ce que tu m'as donné, tu m'as donné plus que j'en méritais. » Autre chose que les Écritures nous apprennent concernant la Providence et nos enfants, c'est un héritage de l'Éternel. Alors, dans le psaume 127, les versets 3 à 5, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. » quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un mouvement aux États-Unis, je me souviens plus comment ils traduisent ce passage-là en anglais. Ils ont, en parlant de tes enfants, ils comparent ça à des flèches que tu mets dans ton carquois. Ça a fait tout un chiard aux États-Unis. Les femmes étaient fâchées de ceux qui disaient que c'était une bénédiction que d'avoir beaucoup d'enfants aux États-Unis. Et là, il y a eu comme tout le mouvement féministe qui a embarqué là-dedans. Et là, ils disaient que c'était une folie furieuse, ces versets-là. C'est comme, à quelque part, là, nous, on comprend ce que le Seigneur veut dire, que c'est une bénédiction d'avoir plusieurs enfants. Mais il y en a, on dirait qu'ils veulent que ce soit le contrôle de leur famille, à leur façon, à leur manière, et ils ne comprennent pas ce que le Seigneur est en train de dire. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. 1 Samuel, chapitre 1, versets 19 et 20. Et ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors, on voit que c'est une grâce parce qu'elle voulait avoir un enfant. On sait que l'autre riait d'elle parce qu'elle n'était pas capable d'en avoir. À un moment donné, le Seigneur permet qu'elle ait un enfant. Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel, le Seigneur lui a accordé. Même elle avait promis que si tu me donnes un fils, je vais en faire un serviteur. Et c'est ce qu'elle a fait aussi. Et on sait que Samuel, dans l'Ancien Testament, quand on regarde sa vie de prophète, il y a eu une énorme influence sur le développement de la vie d'Israël dans ses conseils et dans toutes ces choses-là. On voit aussi dans Luc 1, versets 11 à 14, la naissance de Jean-Baptiste, par exemple. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Alors on voit, on a pu prendre beaucoup d'autres versets. Chose concernant les enfants, c'est que les enfants deviennent une source de joie. Et la privation de ces joies-là, souvent est considérée comme une punition. On regarde par exemple dans Jérémie, chapitre 22, et versets 29 et 30. « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Voyez-vous, comme ici, dans le contexte, on voit que inscrivez cet homme comme privé d'enfant, c'était comme une déclaration que c'était une punition dans son cas, lui. Osée, chapitre 9, versets 9 à 12. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor et ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables, comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Alors on voit le côté que le Seigneur est capable de te priver d'enfants, ou ça devient un jugement même que tu es privé d'enfants. Et Proverbe 10, verset 11, ça dit « Proverbe de Salomon, Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. N'est-ce pas que quand on a, tous ceux qui ont élevé des enfants savent ça, quand on élève des enfants de bas âge, à partir de bébé, aller jusqu'à adolescent, même au-delà, c'est une source de joie. Aussi, c'est une source de pleurs, parfois, là. Mais c'est vraiment une grande source de joie. Quand on se souvient de toutes les choses, ceux qui ont gardé des vidéos des premiers pas de leurs enfants, toutes sortes d'affaires, des mots d'enfants, on se souvient de ça et on est heureux de se souvenir de ces choses-là. Et le Seigneur se sert souvent aussi des enfants comme des instruments d'affliction. On lit par exemple dans Genèse 26, versets 34 et 35, que Ésaü, à cause qu'il était un fils qui ne correspondait pas à ce que ses parents attendaient de lui spirituellement, est devenu une source d'affliction pour Isaac et pour Rebecca. Ça dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme, là ça dit au pluriel, pas pour femme au singulier, pour femme au pluriel, Judith, fille de Béhéri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Alors, elle voyait la mère et le père voyaient qu'ils mariaient des inconvertis, des nations dont Dieu avait dit de ne pas se marier avec ces gens-là. Et ça, ça leur faisait vraiment mal au cœur. Ça dit dans le verset 35, « Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. » On a aussi l'exemple des trois fils de David, Absalom, Amnon et Adonija, qui ont été des sujets de grande peine pour leurs parents. Si on leur relirait toutes les histoires concernant ces choses-là, on verrait ça. Alors, on se souvient qu'Amnon avait violé sa propre sœur. Absalom et Adonija avaient tenté d'usurper le trône royal, autrement dit, presque d'assassiner leur propre père. Alors, quelque part, des fois, tes enfants... Oui, c'est des sources d'affliction, mais des fois, le Seigneur s'en sert aussi comme des instruments d'affliction. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine.